grand dialogue.
Sigikafoba.
Idowani wa makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chenibero.
Halud Mauni.
Chenibiri. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue du Parlement. Aujourd'hui, nous avons fait appel à deux élus de la nation. Il s'agit de Brima Beredoko de la VRD, de Dr Souleymane Seydou Ouattara de ADP Maliba. Ils vont donner leur avis sur trois sujets d'actualité: Ebola, la reprise des pourparlers d'Alger et la sécurité au Sahel. Moi, je suis Sira Batili pour l'animation de ce débat avec la complicité technique de Sedumbu. Alors, honorable député, bienvenue à vous. Le premier sujet d'actualité, c'est bien Ebola, cette maladie qui fait peur. Le médecin de la clinique qui était en isolement est décédé hier, ce qui porte à 5 le nombre de décès dus à Ebola. Selon les autorités, environ 300 autres personnes sont sous surveillance. Alors, je vais commencer par honorable Brima Beredoko de la VRD. Quel bilan tirez-vous à ce jour de l'épidémie et du dispositif sanitaire?
Merci, madame. Mais comme le veut la tradition, je souhaiterais que vous me laissiez dire, adresser mon salut plus fraternel à la population malienne, faire des bénédictions pour ce pays, souhaiter bonne chance au pays, que la paix revienne et qu'il y ait l'entente, la concorde dans le cœur des enfants de ce pays. Pour ce qui concerne Ebola, l'épidémie, donc vraiment c'est une situation préoccupante. Il y a vraiment lieu de se poser des questions par rapport au traitement de l'épidémie. Quand l'épidémie a été annoncée dans les pays environnement, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, quelle a été l'attitude de notre gouvernement? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que les autres ont eu à faire? Donc, la fermeture de la frontière au niveau du Sénégal, nous avons laissé la note ouverte. Quel bilan vraiment on peut en tirer aujourd'hui? Moi, je pense que c'est la première question vraiment que je me pose. La frontière était laissée ouverte. Quand elle était laissée ouverte, quelles sont les dispositions qui ont été prises à la frontière pour éviter vraiment l'entrée des malades au Mali? Depuis les dispositions prises, quel a été le bilan? Combien de malades ont été identifiés au niveau de la frontière? S'il y a des malades identifiés, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que les dispositions sont prises pour qu'au niveau de la frontière, en cas d'identification d'un malade, que les dispositions soient prises pour son traitement, pour que l'épidémie ne se propage au Mali? Donc vraiment, ce sont mes premières questions par rapport aux dispositions prises par le gouvernement.
D'accord, on va faire réagir Dr Souleymane Seydou Ouattara de ADP Maliba. Vous êtes de la session santé,
la
commission santé de l'Assemblée nationale. Peut-être que vous pouvez nous dire le bilan qu'il faut tirer de l'épidémie à ce stade.
Enfin, je vous remercie. Je remercie le grand frère Léné qui a intervenu avant moi. Alors, pour ce qui est de l'épidémie Ebola, moi je pense que la gestion devait obéir à un certain nombre de principes. Alors, étant donné que Ebola est une maladie très dangereuse, contagieuse, alors, ne pas fermer les frontières. Il peut sembler que ne pas fermer les frontières ait été une cause qui a permis à cette épidémie de faire irruption sur notre territoire national. Mais à analyser de près la situation, on s'est dit que le fait que Ebola a pu venir sur notre territoire, ce ne sont que des fautes humaines. Ce ne sont qu'à cause des fautes humaines que cela a pu se produire. Parce que je m'en vais directement dire que, bon, comment se fait-il qu'en période d'épidémie, pendant que au niveau local, au niveau régional, au niveau international, tout le monde est en train de se débattre avec les moyens du bord puisqu'on sait que c'est une maladie qui n'a pas de médicament pour l'instant. Alors, comment on peut accepter que des patients puissent quitter la zone d'épidémie pour venir se retrouver dans des structures sanitaires ici, chez nous-mêmes, sans qu'au préalable, qu'on ait pris le soin de s'assurer que ce patient qui est arrivé de la zone d'épidémie n'est pas porteur ou est porteur du virus Ebola. Alors c'est là, moi, ma préoccupation. Je ne vais charger personne, je ne vais non plus disculper personne, mais je pense que ce qui concerne la fermeture des frontières, je n'en vois pas trop le problème, quoi. Les frontières sont restées ouvertes et pourtant, il n'y a pas eu cette flambée de l'épidémie, si ce n'est le seul cas des patients.
Mais est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il faudrait fermer les frontières ou bien il faut les laisser ouvertes et renforcer le dispositif? Parce que le président de l'URD, Soumaïla Cissé, hier, en rencontrant le président de la République, avait bien souligné ce cas de la fermeture des frontières. Vous êtes pour ça?
Alors, moi, en tout cas, je ne suis pas pour la fermeture des frontières, puisque quand on va fermer les frontières, on sait, fermer les frontières, c'est un mot, c'est un joli mot, mais c'est, en réalité, dans les faits, ce n'est pas réalisable, puisque nous avons des frontières poreuses, tout le monde le sait, et on ne pourra pas mettre à chaque mètre de notre frontière, qui fait quelques milliers de kilomètres quand même, un agent de santé ou un agent de sécurité pour contrôler tous les points. Ce n'est pas possible. Donc, ça risque de, pour moi, en tout cas, ça ne donne pas l'effet escompté.
Alors, monsieur honorable Béré de Gaulle de la VRD, cette proposition du président de l'URD par rapport à la fermeture des frontières, qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, merci madame. Moi, je pense que dans une situation, quand un problème se pose, de mon point de vue, quand il y a lieu de charger, il faut charger. Quand il y a lieu d'inculper, il faut inculper. Quand il y a lieu de disculper, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur d'un chien, comme on le dit en Bambara, et l'égorger par la nuque. Si on prend les cas concrets, ce qui s'est passé, quelqu'un qui est atteint de cette maladie a beaucoup de difficultés à se déplacer. Le moment lui est vraiment très très difficile. Quelqu'un qui est malade, atteint de l'Ebola, justement prendra vraiment un moto-taxi pour traverser la frontière. Ce qui s'est passé, la vie qui est passée avec son enfant, si la frontière avait été fermée,
sa petite fille,
moi, ça me tenait vraiment qu'elle puisse vraiment faire le trajet de, je ne sais pas où, de la Guinée jusqu'à Caille avec cet enfant malade, si la frontière avait été fermée. Si on prend le cas du malade qui est mort à la clinique Pasteur, eu égard à son état, s'il était fermé, s'il devait prendre des pistes, est-ce qu'il aurait pu atteindre Bamako? Il y a un problème concret qui est là. Je pense qu'il y a vraiment lieu de fermer les frontières. Ce n'est pas dire qu'on n'aime pas la Guinée, pas du tout, point du tout. Mais souvent, dans les services hospitaliers, quand une femme est malade, par exemple, il a dit qu'on isole l'enfant, qu'on met l'enfant à côté, mais ça veut dire que la maman n'aime pas son enfant. Elle aime bien son enfant,
mais
la nécessité veut que, pour un temps donné, qu'on sépare les deux. Donc c'est la Guinée, c'est un pays frère. On affronte les mêmes pays, les mêmes empires dans le temps. On les aime très bien. Et même à l'intérieur d'un pays, il peut arriver qu'on isole une région. C'est la nécessité qu'il impose.
Mais on n'est pas entouré par la mer comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire par exemple.
Oui.
Imaginons que le Sénégal aussi veut fermer sa frontière avec le Mali, que Ebola est là,
oui,
et que la Côte d'Ivoire fasse la même chose.
Oh,
est-ce
oui.
que cela ne va pas étouffer le pays économiquement?
Mais si ça s'impose, on le fait. Il arrive chez nous qu'on passe des hivernages sans cultiver. Quand la guerre atteint un certain niveau, dans le passé, les gens, je l'avais qu'il y ait un hivernage sans que les gens cultivent. C'est la nécessité qui peut l'imposer. Il n'y a pas qu'à gagner de l'argent ou il n'y a pas qu'à avoir le pétrole.
Il faudrait
si ça ne va pas, on va marcher à pied, on va prendre les ânes.
Il ne faudrait surtout pas renforcer le dispositif sanitaire aux frontières que de les fermer.
Mais ce dispositif était là quand la femme est passée. Ce dispositif était là quand le VR est venu.
Ça veut dire qu'il y a
mourir.
Défaillance quelque part. Si
on,
renforce, peut-être que ça peut aller.
Oui, selon les ouvrages dont nous disposons, quelqu'un qui est malade, quand la frontière est fermée, a beaucoup de plus de mal à atteindre une certaine distance que quand il vient par un véhicule. Il est plus facile pour un malade de venir en voiture, en ambulance que sur une moto. Un certain instant, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus venir au Mali. C'est cette dimension qu'il faut voir. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons la fermeture des frontières.
Alors, honorable Ouattara, qu'en est-il,
rien ne vaut la santé.
Qu'en est-il de ce dispositif sanitaire qui est quelque peu défaillant?
Moi, je ne dirais pas que le dispositif sanitaire mis en place est défaillant.
Mais les deux malades sont passés quand même.
Oui, les deux malades sont passés. Je l'ai dit tantôt dans mes premiers propos que c'était des erreurs humaines. Hein. Il faut comprendre d'abord la pathogénie même de cette maladie.
Qui a fait ces erreurs?
J'y reviendrai. Il faut connaître d'abord la pathogénie de cette maladie pour se rendre compte que le dispositif fonctionne bien et que la fermeture des frontières, à mon avis, ne s'impose pas. Pourquoi? Parce que la petite fillette qui est décédée à Kai, elle est arrivée à un moment où, c'est dans la maladie, il y a ce qu'on appelle la période d'incubation. Elle n'est pas arrivée avec les signes de la maladie. Ça veut dire qu'au moment où elle passait la frontière, sûrement elle n'avait pas les signes. Elle était porteuse du virus, mais elle n'avait pas encore développé la maladie. Alors, tout en sachant que la période d'incubation, c'est entre 2 et 21 jours, alors la fille est passée, elle n'avait pas les signes, elle les a développés après. Donc le dispositif n'était pas à mesure, à mon sens, de savoir qu'elle était porteuse du virus. À moins que si on faisait des prélèvements sur tout ce qui passe, bon, ce qui est du cas du patient de Pasteur, là vraiment, là je pense quand même qu'il y a eu...
L'imam guinéen.
Voilà, là, puisque lui il est arrivé malade. Il est arrivé malade. Moi, je pense vraiment que ces patients auraient dû passer des examens pour qu'on sache s'il est porteur du virus ou pas.
Alors, ce
qui n'a pas été fait. Et là, à mon sens, il y a un manquement.
Alors, voilà. À ce niveau, est-ce qu'il faudrait poursuivre les responsables?
Bon, ce que je vais vous dire, poursuivre les responsables. Bon, ça, c'est peut-être à d'autres niveaux.
Vous pensez que c'est nécessaire?
Bon, enfin, est-ce que moi, je suis la personne indiquée réellement pour...
Vous êtes élu de la nation, vous avez votre avis là-dessus.
Bon, pour ça, je pense qu'il y a une procédure qui est là. Il y a les ordres professionnels de la santé qui sont là, le Conseil national de l'ordre des médecins, qui peut-être peut s'impliquer pour voir si réellement il y a eu des fautes. Et en ce moment, on peut parler des sanctions.
D'accord, voilà. On va observer quelques secondes de pause. Ouais. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID. Et oui, vous pouvez donc réagir aux informations du Studio Tamani sur Facebook et Twitter. Le Grand Dialogue reçoit aujourd'hui le Parlement pour parler des sujets d'actualité. Nos invités sont Brima Beredogo de la VRD, Dr Souleymane Seydou Ouattara de ADP Maliba. Deuxième thème de ce débat, avant d'y venir, je vais faire réagir Honorable Beredogo par rapport à cette question sur les dispositions déjà prises. On parlait de fermeture de frontières et on parlait de réprimer les responsables. Est-ce que, selon vous, il faut réprimer les responsables?
Bien. Moi, je pense que, contrairement à mon collègue Colestier, je pense que la faute est d'abord politique. Il y a une faute politique qui est là. Elle n'est pas seulement humaine, il y a une faute politique qui est là, de mon point de vue. Le problème au Mali, c'est aussi la question de l'information. La fille, quand elle arrivait au Mali, quand elle traversait les frontières, avait-elle vu ou non développer les signes? C'est au gouvernement de nous donner les informations précises. Il faut informer le peuple. Lui, il dit que la fille n'a pas développé les signes de la maladie. Donc, selon les informations de moi, je dis, oui, elle avait développé les signes de la maladie. Et selon les informations, donc, elle avait déjà, le nez était protégé, etc., etc. C'est au gouvernement de nous informer, de nous dire vraiment qu'est-ce qu'il en a exactement. Moi, je dirais aujourd'hui, selon les informations dont je dispose, la fille devait développer les signes de la maladie en traversant la frontière. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le vieillard. Donc, comme il l'a dit, bon, vraiment, c'est inexcusable. Il y a une faute qui a été commise. Et ce n'est même pas une erreur. Moi, je pense que c'est l'argent ici qui a prévalu. Il y a une volonté de cacher l'information, de comment il veut appeler. Il y a une volonté de ne pas donner l'information aux gens. Et à tous les niveaux. Le mal était informé à temps de ce qu'il en était exactement. L'information n'a pas suivi. La clinique a tenté de cacher l'information. Mais c'est vrai que c'est un crime qui a été commis. C'est inexcusable. Combien de personnes sont mortes suite à ça? On va laisser ça impuni ou non, je ne sais pas quoi. Non, moi je pense que les responsables, il faut les punir, il faut les poursuivre, les punir. Quand une faute est commise, vraiment, c'est à sanctionner. Il faut que plus jamais personne ne recommence ça, c'est fait pour ça. La punition, c'est fait pour ça, pour dissuader. Que ça ne se recommence plus. Que ça ne signe pas d'excuse là, de mon point de vue.
D'accord. Honorable, on va passer au deuxième thème, si vous le permettez. Deuxième thème de ce débat, les pourparlers d'Alger qui ont repris hier après-midi à Alger. C'était en présence de l'équipe de la médiation internationale, des autorités maliennes et des différents groupes armés. L'enjeu de ce rendre des négociations et l'élaboration d'un pré-accord par les protagonistes, certainement sur la base du document de synthèse de la médiation pour la paix et la réconciliation. Alors, honorable Souleymane Seydou Ouattara de ADP Maliba, est-ce qu'on peut enfin parvenir à un pré-accord à Alger?
Nous l'espérons. Nous l'espérons vivement pour notre pays. Alors, mais le problème, il est très difficile à gérer. De mon point de vue, le document qui nous est proposé par la médiation, mérite un certain toilettage à certains endroits, puisqu'il y a certaines dispositions qui, si le document devait rester en l'état, il y a certaines dispositions qui transgressent ce qu'on a appelé les trois lignes rouges que le président de la République a bien fixées au gouvernement dans les négociations, donc à savoir l'intégrité du territoire. La forme laïque de l'État.
D'accord.
Et dans le document, on a vu quelque part qu'on a parlé des cadis. Bon, les cadis, ce sont ces juges islamiques à qui on veut accorder une certaine place. En un mot, la charia. C'est-à-dire qu'essayer de donner un champ d'action à la charia, moi, de mon point de vue, ça, c'est inadmissible. On ne peut pas signer un document avec même le mot charia. Parce que, de mon point de vue, écrire même ce mot, le simple fait de l'écrire dans le mémorandum, revient et lui donner un champ d'action, reconnaît de facto à reconnaître. Alors que, à ce que je sache, la charia n'est pas une disposition dans le dispositif judiciaire du Mali. Alors, donc, au-delà de cela, dans le document, quelque part, on voit que... les groupes armés proposent qu'ils aient la possibilité, par exemple, de regrouper des régions et d'en donner une dénomination. Alors, donc, et quand on examine un tout petit peu, on se rend compte que ces trois régions sont celles du nord, les trois régions du nord, Gao, Kidal, Tombouctou, et le nom qu'il donne à ces territoires nouveaux, une nouvelle collectivité territoriale, ça va être le Azawad. Alors, donc, de mon point de vue, ça viole le principe de
l'intégrité. Ça veut dire que vous avez des réserves par rapport à ce document de synthèse?
Tout le monde au Mali,
Vous avez fait part de cela au gouvernement avant qu'il n'aille aux négociations?
Bon, je crois que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité présidentielle, on a mis des réserves et puis je pense qu'ils ont bien pris note.
Alors, honorable Beridougou, est-ce qu'on peut parvenir à un pré-accord à Alger cette fois-ci?
Bien, merci madame. Moi, je pense qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, pour ce qui concerne Ebola, à ce niveau aussi, il y a des fautes politiques qui nous éloignent des accords, qui rendent la situation difficile. La première faute politique, qu'est-ce que c'est? En septembre, en juillet 2013, on est parti avec un acquis. Les accords de Ouagadougou qui nous ont permis de faire des élections. D'avoir un président de la République, d'avoir un parlement. C'est un acquis incontestable. On a commencé par l'ignorer. On n'est pas même vouloir prononcer son nom. En ne voulant pas voir ce qu'étaient les acteurs de cet accord, alors qu'ils auraient pu être utiles au Mali. De mon point de vue, ça, c'était la première faute politique. Ça a laissé pourrir la situation. Les djihadistes sont revenus et sont installés à travers le Nord. Donc, c'était la première faute politique. La deuxième faute politique a été, au lieu vraiment de tenter de négocier quand on était en position de force, c'était le voyage du Premier ministre, qui nous a ramené 50 ans en arrière. Ce que les djihadistes, ce que les rebelles, les bandits, ce qu'ils n'ont pas pu vous avoir en 10 ans de lutte, en 20 ans de guerre, en 2 mois, ils l'ont obtenu. C'était la deuxième faute politique. Et la troisième faute politique, c'est un peu la gestion de ce document-là. Comment est-ce qu'il a été géré? Le 20, on savait tous qu'on devait aller à Alger. Ce document était là. Mais qu'est-ce qu'il y avait de mieux pour le gouvernement que de partir avec les positions de la population, les positions des élus?
Ça veut dire que vous n'avez pas reçu le document à temps?
On ne l'a pas reçu à temps. Et je pense qu'il aurait fallu faire des concertations régionales, concerter les gens, recueillir leur avis.
Pourtant, le ministre a fait des sorties à ce niveau.
Mais quelles sont les synthèses? Vous avez eu des synthèses par rapport à ça? Si on prend le gouvernement, on a fait un huis clos. Non, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Il fallait faire un débat public, que les rebelles entendent la représentation nationale, que les forces occidentales entendent la représentation nationale, qu'ils savent ce que nous pensons. On a fait des recommandations au gouvernement, mais c'était à huis clos. Il aurait fallu que le monde entier l'entende. Sauf que nous sommes contre ce document, comme l'a dit Ouattara, que nous condamnons ce document-là, que ce document il est inacceptable, que c'est une indépendance qui ne dit pas son nom, que c'est une pré-fédération qui prépare vraiment une indépendance. Et tous les éléments sont là pour nous dire que vraiment c'est un document inacceptable qui prépare vraiment la partition de notre pays. Ce contre quoi nous sommes vraiment opposés. Ce contre quoi le Nord même a opposé.
Est-ce que l'Assemblée a eu le temps suffisant pour faire des propositions au gouvernement avant qu'il n'aille aux négociations?
Bon, le temps suffisant, c'était pratiquement 3 jours avant les négociations. Je pense que c'était vraiment un temps insuffisant. Si on prend vraiment le document, non seulement il est inacceptable en le sens que ça consacre la partition du pays, puis c'est un document aussi injuste. Tous les fils du pays ne sont pas traités sur le même pied d'égalité. Si vous prenez la page 4, c'est l'injustice entre les différents fils du pays. Par exemple, les textes disent que pour qu'une circonscription ait un député, il faut qu'il ait 60 000 habitants. Ou bien toute circonscription a un droit à un député. Mais après 60 000 habitants, il a droit à un deuxième député. Mais qu'est-ce que le texte nous demande? Que les régions du Nord, une fois que quand ils vont avoir un député, et qu'une fois qu'ils dépassent les 30 000, on va leur donner un deuxième député. Mais au nom de quoi? Ne sont pas tous égaux? Il y en a certains qui valent mieux que d'autres. C'est un document injuste. C'est l'iniquité, c'est déséquilibré. C'est inacceptable, madame.
D'accord. Alors, honorable Ouattara, est-ce qu'il va s'agir d'un préaccord qui sera soumis à l'appréciation du Parlement? C'est l'Assemblée qui va valider ce préaccord qu'on attend d'Alger?
Normalement, s'il y a un accord, cet accord doit pouvoir passer et sous l'appréciation des représentants du peuple.
Il y a également l'aval des chefs coutumiers du Nord.
L'aval des chefs coutumiers du Nord, ils sont déjà partie prenante des négociations. Mm-hmm. Alors, donc, quand un accord va sortir, forcément, cet accord va prendre en compte leurs préoccupations.
Alors, est-ce qu'un compromis est possible aujourd'hui, compte tenu de l'écart qu'il y a entre les points de vue?
Un compromis est bien possible et nous le souhaitons vivement. Comme l'a dit mon aîné, peut-être que c'est la gestion même du problème qui a posé un peu problème. Et pour une fois, opposition et majorité se retrouvent et pensent que les choses ne sont pas bien parties. Et nous l'avons signifié aux membres du gouvernement lors du huis clos. Et c'est le moment qu'on a eu effectivement pour discuter du préaccord à l'Assemblée nationale.
Alors, honorable Beredougou, un compromis est-il possible?
Oui, un compromis est bel et bien possible. Et l'essentiel est vraiment qu'on gère les choses sérieusement, qu'on se mette sur les deux pieds, comme disait Mao Zedong, que la majorité ne soit pas prise en otage par la minorité, qu'on puisse donner la parole à tous les fils du pays, qu'on puisse donner la parole aux gens du Nord, on les a entendus. Que ceux qui parlent au nom de telle collectivité ou telle collectivité, non, qu'on donne la parole à la société civile. Personne n'en est content. Nul n'est content de cette situation. Tout le monde est en train de souffrir, y compris ceux du Nord, ceux de Kidal, qui sont en train de vraiment tendre la main au gouvernement. Tout à l'heure, on en parlera. C'est l'insécurité partout. Donc, vraiment, un compromis est bel et bien possible. Mais il faut que chacun joue son rôle, que chacun joue sa partition, que le gouvernement sache qu'il est le gouvernement, qu'il se mette sur les pieds du gouvernement, et que par rapport à ce que disent les médiateurs, qu'il y ait vraiment une certaine fermeté vis-à-vis contre ces médiateurs, leur donner la vraie information, l'information vraie. Je pense que bien, un accord est bel et bien possible, mais il faut faire participer, il faut faire venir vraiment l'information, la position du gouvernement qui vient de la base et des élus. Partir vraiment aux négociations avec les positions du gouvernement. Que les médiateurs sachent que tel et tel aspect sont inacceptables pour la population malienne. Je pense qu'à ce titre-là, vraiment, une position médiane sera plus ou moins obtenue.
Alors, honorable Ouattara, on ne le souhaite pas. Au cas où il y a des accords, qu'est-ce qui va se passer?
Bon, moi, je ne me mets pas dans la logique qu'il n'y aura pas d'accord. Parce que quand il n'y aura pas d'accord, alors on assistera peut-être à ce qui s'est passé. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, mais si réellement il ne devait pas avoir d'accord, les groupes armés sont dans leur position. Ils sont peut-être aujourd'hui en position de force. Alors ça, ce serait la plus mauvaise nouvelle pour le Mali.
Voilà.
Je ne le souhaite pas, j'ai même peur de parler de ça.
D'accord. Voilà. Honorable Beredougou, au cas où il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui peut se passer?
Bon, comme on le dit en français, je touche du bois.
Oui.
Mais je pense que un désaccord souvent vaut souvent mieux qu'un mauvais accord. Il ne faut plus accepter de n'importe quoi. En cas de désaccord, qu'est-ce qui peut arriver? Moi, je pense qu'il convient que les uns et les autres se posent cette question. On dit que gouverner, c'est prévoir. Avant qu'on lui pose la question, c'est au gouvernement vraiment de se poser cette question. En cas de désaccord, qu'est-ce qui peut arriver? En cas de désaccord, quelles dispositions prendre? C'est au gouvernant de poser cette question et de prendre vraiment les dispositions adéquates. Il ne faut rien exclure dans des situations de ce genre-là. Mais il faut que l'État soit là. Que l'État cesse d'être absent. Que l'État soit présent et qu'il joue son rôle. Rôle de défense, rôle de sécurité. Prendre vraiment les dispositions par rapport à ce nouveau. Moi, je pense que c'est en ces termes que se pose la question.
D'accord, on souhaite qu'il y ait accord et sur ce, on va observer quelques secondes de pause.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID. Et oui, vous suivez le Grand Dialogue du Parlement grâce à nos 22 radios partenaires à travers tout le Mali. C'est le rendez-vous habituel avec les députés. Aujourd'hui, nous sommes avec Brahima Beredougou de la VRD et Dr Souleymane Seydou Ouattara de ADP Maliba. Et nous parlons d'Ebola, de pourparler d'Alger, de sécurité au Sahel. Maintenant, c'est la sécurité au Sahel. Les chercheurs africains et internationaux étaient réunis en début de semaine à Bamako pour un colloque international sur la sécurité au Sahel. Ils réfléchissent à la solution africaine à cette question d'insécurité. Au même moment, on a vu une vidéo de l'otage français Pierre Lazarevitch. Est-ce qu'on peut croire en la libération de cet otage, M. Souleymane?
Bon, les prises d'otages, il faut le reconnaître que c'est le moyen de se faire de l'argent. C'est le moyen de gagner de l'argent pour les groupes armés, pour les groupes djihadistes. Tant que...
Allez-y.
On va continuer à leur verser des rançons sous anonymat. Ils vont continuer à sévir. Alors, nous osons croire que c'est un Français.
Oui, c'est un Français.
Voilà, nous osons croire qu'il va être libéré. Alors, peut-être qu'au décours d'un accord, par exemple, à Alger, ce que nous souhaitons vivement, peut-être que ça va apaiser quelque peu les tensions et ce qui pourra peut-être favoriser sa libération. Donc, moi, j'ai de l'espoir, en tout cas, dans la vie, je suis de nature optimiste.
Alors, honorable Beridogou, est-ce qu'on peut croire en la libération de cet otage français?
Bien, je pense que mon collègue a soulevé quelque chose d'implicite. Moi, je dirais que les Occidentaux et principalement les Français jouent avec du feu. Ils jouent avec du feu, disaient les Occidentaux et les Français, en ce sens que la frontière entre MNLA, djihadistes, etc., etc., la frontière n'est pas étanche. La frontière n'est pas étanche. Donc, un jour, on est ceci et le lendemain, on est cela. Et je pense que quand on prend un peu les causes de cette situation, de la situation présente, les Occidentaux, ils ont une bonne part de responsabilité et jouant vraiment souvent sur leur intérêt. Le Sahel a toujours été une zone d'insécurité. Mais l'insécurité, elle est souvent fonction de l'État, du pays qui gouverne un moment donné de l'histoire. Je veux dire que du temps des empires, quand l'État était fort, l'insécurité diminuait. Mais dans les périodes de décadence, ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, c'est ce qu'on connaissait dans le passé. Donc ce n'est pas du nouveau.
Et donc, quel est le rôle que le Mali peut jouer dans cette libération de l'otage français?
Quel est le rôle que le Mali peut jouer dans cette question de libération de l'otage français? Moi, je pense que le Mali, ce qu'il doit faire en premier lieu, c'est de jouer son rôle, c'est que ses prérogatives lui reviennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans un pays souverain. Il y a des zones où on nous demande de ne pas mettre des casernes là-bas. On nous a chassé avec les textes de certaines zones, au moins 9 casernes. Il y a 9 localités dans lesquelles on nous a demandé de ne pas mettre des casernes. Alléger les dispositifs militaires au nord. Donc il faudrait que ces zones-là, nous puissions les réoccuper. Mettre nos forces de sécurité, à défaut de casernes, il n'est pas intérêt de mettre des gendarmes, des douaniers. Et à ce niveau, moi je pense que c'est à l'État de jouer intelligemment. C'est à l'État de jouer son rôle. Si des terres nous disent de ne pas mettre des camps militaires, on ne nous a pas dit de ne pas mettre d'agents des eaux et forêts. On ne nous a pas dit de ne pas mettre des douaniers, des policiers, des gendarmes. Il faudrait revenir au maillage de notre territoire. Ce territoire était maillé avant 1993. On occupait les territoires. Donc des textes, on nous a fait signer des textes comme entre ceux qu'on va signer aujourd'hui à Alger et on nous a fait dégager notre pays. Donc je pense que le dispositif sécuritaire qui peut faire que nous pouvons empêcher les prises d'otages et participer à la libération de ceux qui sont encore en otage.
D'accord. Honorable Ouattara, lors du colloque international sur la sécurité au Sahel, on a soulevé la responsabilité africaine. Quelle peut être la responsabilité africaine dans cette situation d'insécurité qui vit le Sahel aujourd'hui?
Bon, enfin, on peut dire beaucoup de choses, mais il faut savoir que les pays africains, surtout de la zone sahélo-sahélienne, n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Aucun pays de la zone sahélienne ne peut assurer la sécurité, l'intégrité de son territoire, puisque c'est des vastes territoires qui sont là. Alors, vu cette impossibilité, Bon, ça laisse la porte ouverte à...
Ça voudrait dire que ça devient l'affaire des Occidentaux?
Ça devient pas forcément l'affaire des Occidentaux, mais c'est, un seul pays ne peut pas. Alors ça demande peut-être...
Il faut une synergie d'action.
Une synergie d'action entre tous les pays du champ. Sinon, c'est vraiment pas possible. Ce n'est vraiment pas possible.
D'accord. Par rapport à cette question de responsabilité, M. Beredougou, quelle peut être la responsabilité africaine dans l'insécurité au Sahel?
Oui, je pense que nous avons une bonne part de responsabilité. Une bonne part de responsabilité. Notre responsabilité, elle est grande. Elle est grande. Elle n'est pas totale, mais vraiment, c'est le trois quarts. Pourquoi nous avons une part de responsabilité? En premier lieu, à cause de la gouvernance. Comment est-ce que nous gérons le secteur de la sécurité? On n'a pas assez d'argent, mais le peu qu'on y a, comment ça s'est géré à l'intérieur? Où ça va l'argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça, c'est une question. Ces fonds, il faut les gérer correctement. Mais qui est dans le secteur de la sécurité? Qui va dans le secteur de la sécurité? Comment est-ce que les gens sont recrutés? Comment est-ce qu'ils sont formés? Voilà notre part de responsabilité. Mais quand le secteur de la sécurité devient un gagne-pain, je viens pour gagner ma vie, je ne veux pas mourir pour ma nation, on a une part de responsabilité. Et comment est-ce qu'on en vient là? Donc ce sont les enfants d'une certaine catégorie de la population qui sont recrutés. Et quand on les forme souvent, ce sont les mêmes parents qui interviennent pour dire que vraiment on est en train de maltraiter les enfants. Mais quand l'ennemi va courir derrière eux, est-ce que ses parents seront là? Donc on les recrute pour gagner leur vie, mais pas pour mourir pour la nation. Quand le coup de feu éclate, donc, communication avec les parents, non, laissez les fusils, retirez-vous. Donc, nous avons une bonne part de responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Nous sommes en premier lieu responsables. Donc, la gouvernance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au nord du Mali? Ce sont les enfants de ce pays qui viennent mourir. Ce sont les Tchadiens qui viennent mourir au Mali. Les Nigériens qui viennent mourir au Mali. Mais ce n'est pas à eux de mourir. C'est à nous de mourir pour notre nation. Mais les Américains, ils vont mourir en Afghanistan, c'est leur pays là-bas. C'est un autre pays. Et nous, on ne va pas ailleurs, on va pour notre pays. Et cela, eu égard au type de formation, eu égard au type de recrutement. Je pense qu'il y a des traditions dans ce pays. Nous avons des traditions guerrières dans ce pays-là. Nous savons nous battre dans ce pays-là. Nous ne fuyons pas la guerre. Il y a des communautés entières qui sont devenues des hommes de caste inférieure parce qu'elles ont eu à fuir la guerre. Ça, c'est l'origine de certaines castes. Parce que votre groupe a fui la guerre, donc vous ne voulez plus avec les horons. Et comme je l'ai dit la dernière fois à l'Assemblée nationale, nous avons des communautés chez nous, les Kakolos par exemple, sur les champs de guerre pour ne pas fuir, donc on remplit le pantalon de sable. C'est pour ne pas fuir. Il vaut mieux mourir ici que de retourner au village. Vous devenez la honte du village. Les Kakolos mouraient au front. Les Sonrais, les archers de l'Askia, ils attachaient les pieds, on leur attachait les pieds, eux-mêmes s'attachaient les pieds pour ne pas fuir devant l'ennemi. Ils sont là avec les arcs et tirent. Pour ne pas, ça c'était une gouvernance. Vous connaissez tous.
Oui.
On dit de si vous fuyez la guerre, il y a des morts que vous ne pouvez pas danser. Donc nous avons une culture qui est là, nous avons une tradition qui est là, nous sommes des guerriers. Comment revenir à cette culture guerrière là? Pour que les gens ne fuient plus, les fameux replis stratégiques. Comment mettre fin à ça? Donc c'est ce recrutement qu'il faut voir, cette formation qu'il faut voir, voir l'utilisation de l'argent. Qu'on ne reste pas sous-climatisé avant qu'on aille au front. Que la majorité des militaires soit au nord. C'est ça notre responsabilité.
Ouais.
Mais si on reste à Bamako dans les cabinets, on a beaucoup de généraux, etc. Mais qu'ils aillent au front, là.
Ouais.
Qu'ils aient occupé les différents cercles. Qu'ils aillent diriger les enfants. Voyez-vous? Il y a, dans les villes, il y a des gens qui sont prêts à se battre, etc. C'est là qu'il faut aller les chercher.
Ouais.
Ça, c'est notre part.
Ouais.
Ça, c'est pas la part des autres.
D'accord.
C'est moi je voulais dire par rapport à ça.
D'accord. Honorable Ouattara, lors du colloque, il a été proposé la solution africaine à cette question d'insécurité au Sahel. Est-ce que vous pensez que l'Afrique seule peut faire face à ce phénomène?
Bon, enfin, c'est ce que j'ai dit dès le départ. Nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Ça, ce territoire est tellement vaste que nous ne pouvons pas, même les pays africains réunis ne peuvent pas assurer la sécurité de ces territoires. Alors il faut bien l'appui des partenaires, qui sont les Occidentaux. Ce que je sais, nous ne fabriquons pas d'avions, nous ne fabriquons pas de chars, Alors, donc, et même si ces chars et ces avions sont là, il faut encore payer. Les ressources viennent d'où? Il n'est pas facile de les avoir. Alors, donc, il faudra sûrement l'accompagnement de tout le monde, l'accompagnement des Occidentaux, de la France, de l'Union européenne, des Nations unies, pour que l'on puisse mettre fin à certaines pratiques qui alimentent, en fait, le problème. Alors, cette zone-là, elle est une zone de trafic par excellence. Alors, des trafics de tout genre, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic voilà, de cigarettes. Et c'est le gagne-pain, c'est le mode de vie pratiquement de certaines populations. Alors, quand on va un peu profondément pour les causes, on se rend compte que bon, c'est pas comme à Sikasso ou bien à Kai où les gens vont dans des champs pour aller travailler. Alors, maintenant, les rapports de production, il faut les définir, puisque je sais que là-bas, les rapports de production sont de type esclavagiste. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut le dire pour qu'on trouve des solutions. Et tant qu'il va y avoir des hommes de seconde zone, des maîtres des trucs, et il y aura toujours ces problèmes-là. Voilà. Donc, d'accord. Si par là, il faut inviter tout le monde à travailler, à mouiller le maillot. Voilà, pour que on puisse venir à bout de cette insécurité.
D'accord. Honorable Beridougou, faut-il compter sur les Occidentaux? L'Afrique ne serait pas forte elle seule?
Bien, effectivement, je suis d'un avis contraire, madame. Et comme le dit en Bambara, Nico, nan tema kanga wara faka, on sera kumira de bébé boulefro. Quand tu invites les autres à venir à tuer le fauve, que toi, tu fasses l'effort pour tenir sa tête, ou bien au moins ça que. En ce moment, les autres peuvent t'aider. Mais l'exode, pour quelles raisons ils vont venir? La pitié, la charité? Non. Les Occidentaux, l'Europe capitaliste, c'est l'argent. C'est le capital. C'est l'argent qui importe. Ce sont les intérêts, les bénéfices qui importent. Ils vont venir, s'il y a un puits de pétrole à défendre, ils vont venir. Moi, je pense que vraiment que les nègres meurent, vraiment dans la majorité, ce n'est pas leur problème. Quand ils viennent souvent, c'est pour leur intérêt. Les moyens financiers. Combien de milliardaires il y a au Mali? Combien de milliardaires il y a au Nigeria? Il y a des sous qui existent chez nous, il y a des fonds qui existent chez nous. Mais il faut donner les moyens de les avoir. Encore la question de la gouvernance. Et sur le peu qu'on a aussi, comment est-ce qu'on les utilise? Il faut les utiliser rationnellement, judicieusement, les utiliser correctement. Si on prend le cas du Mali, on n'a pas les titres fonciers. Combien paye l'impôt sur les titres fonciers? Si au niveau de la douane, il y a eu la grève récemment au niveau de la douane. Les commerçants, qu'est-ce qu'ils veulent payer les conteneurs, ils payent en gros. Vous allez voir les cahiers de la douane. Dans les mois, il n'y a pas plus de deux imports, trois ou quatre importations de basin. Ça ne figure pas. Mais c'est le pays du basin, le Mali.
Oui.
C'est le pays du basin et le moins cher. Faut que nous payons les impôts.
Bien
les
sûr.
Autres, ils nous aident avec leurs impôts.
Oui. D'accord.
En payant nos impôts, madame, on va avoir les moyens pour faire le minimum. Et ce minimum, en les gérant bien, en recrutant correctement nos gens, en étant moins injuste, je pense qu'on va arriver vraiment à bout de beaucoup de problèmes.
Merci.
Les autres ne peuvent pas résoudre les problèmes à notre place.
Merci, honorable. Ça va être le mot de la fin. On est malheureusement à la fin de ce débat. Nous sommes donc au terme de ce numéro du Grand Dialogue du Parlement, numéro qui a porté sur trois sujets, le virus Ebola, les pourparlers d'Alger, la sécurité au Sahel. Nos invités étaient Brahima Beridougou de la VRD, Dr Souleymane Seydou Ouattara de ADP Maliba. Vous aviez Sira Bachilé au micro, Ousmane Diadié Touré à la réalisation, Sedumbo et Peting Diara étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Edowani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chen Nibiru.
Halo Dmoni.
Chen Nibiru. Siki Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.